Imaginons un instant une immense bibliothèque.
D'accord.
Pendant des décennies, cette bibliothèque, elle était magique. Genre, on y entrait, on posait une question, et instantanément, le livre exact s'ouvrait à la bonne page pour donner la réponse.
Ouais, c'était fabuleux.
Fabuleux, oui. Mais ça restait fondamentalement passif, tu vois. Le livre attendait sagement qu'on le lise.
Exactement, il restait sur son étagère, quoi.
Voilà. Eh bien, ce qui ressort de notre décryptage d'aujourd'hui, c'est que ce livre vient de se refermer. À la place, la bibliothèque entière a pris vie.
Ah ouais, carrément.
Elle sort des rayons, elle lit le courrier, rédige des mémos, elle prend des décisions et gère des dossiers complets pendant qu'on prend un café. L'outil passif, ben, il vient de se transformer en un acteur indépendant.
Et ça, c'est vraiment le passage de l'outil à l'agent. C'est une rupture de paradigme que beaucoup n'ont pas encore pleinement mesurée, en fait.
Bah oui, parce que c'est invisible.
Complètement. Ça se déploie de manière presque indétectable à l'intérieur même de l'architecture de nos systèmes informatiques, très loin des regards du grand public.
Et c'est précisément la mission de notre exploration en profondeur aujourd'hui. On va se plonger dans les pages, très denses d'ailleurs, du magazine IMIG numéro 03.
Ouais, l'édition de mars 2026.
C'est ça. Le but, c'est de comprendre ce phénomène de ce qu'ils appellent l'intelligence agentielle. On va voir comment cette intelligence d'un nouveau genre ne se contente plus du tout de parler, mais agit.
Elle agit, elle impacte le marché du travail, la géopolitique.
Absolument. Le droit d'auteur aussi. Et même, de façon assez flippante, les champs de bataille. Et on va regarder comment un pays comme le Maroc tente de naviguer là-dedans. Ok, décortiquons ça. Parce que ce qu'on prenait honnêtement pour un scénario de science-fiction, bah, c'est devenu notre réalité de tous les jours.
La clé pour comprendre cette bascule, on la trouve dans un concept qui a été abordé lors de la récente masterclass d'Adnan Benchakrou.
Ah oui, la fameuse transition.
Voilà, la transition du prompt à la mission. En fait, jusqu'en 2024 ou 2025, on était dans l'ère du prompt. Tu donnais une instruction ponctuelle, tu avais un résultat ponctuel.
Une question, une réponse, quoi.
Exactement. Mais aujourd'hui, un agent IA opère selon une architecture qu'on résume par l'acronyme PRAM.
PRAM.
Oui. Percevoir, raisonner, agir, mémoriser.
Percevoir, raisonner, agir, mémoriser. Donc c'est une boucle continue en fait.
Mm-hmm.
Dès qu'il a fini une action, il repart au début.
C'est tout à fait ça. C'est une boucle qui s'auto-alimente. Elle s'affine à chaque passage. L'agent, il perçoit une nouvelle information dans son environnement. Ensuite, il raisonne en fonction des objectifs globaux qu'on lui a donnés.
Ok.
Puis, il agit concrètement sur les logiciels. Et enfin, il mémorise le résultat pour s'ajuster à la prochaine itération. Ce n'est plus du tout un générateur de texte, tu vois. C'est un moteur de résolution de problèmes.
Moi, j'ai été littéralement bluffé par l'exemple de Claude, l'IA d'Anthropic, avec ses fonctionnalités Dispatch et Cowork.
Ah oui, c'est un excellent exemple.
On ne parle plus du tout d'un chatbot sur une page web. C'est devenu un agent de bureau installé dans une machine virtuelle. Il accède aux fichiers locaux de l'ordinateur.
Il lit les mêmes dossiers que nous.
Voilà. Et avec cette fonction dispatch, ton téléphone portable, bah, il se transforme en télécommande. Tu peux être coincé dans les embouteillages, t'envoies une courte consigne vocale, et l'IA, qui est restée virtuellement au bureau, elle va ouvrir les dossiers clients, faire une synthèse financière, classer les documents et envoyer le mail final.
Tout ça pendant que tu es dans le taxi.
C'est comme passer d'une encyclopédie ultra rapide à un stagiaire hyperactif. L'encyclopédie, elle attend, mais le stagiaire, il bosse.
Ce qui est fascinant ici, c'est précisément la conséquence de cette autonomie parfaite.
Comment ça ?
Eh bien, quand la machine produit des résultats aussi structurés et argumentés, elle crée ce que l'on nomme l'illusion de la rationalité.
C'est-à-dire ?
Le fait qu'on lui fasse trop confiance juste parce que ça a l'air professionnel, c'est le piège cognitif par excellence, ouais. Un document impeccablement mis en page, avec un ton assuré, ça masque très facilement des biais profonds, des hypothèses de départ complètement fausses, ou même des erreurs de logique très subtiles.
Ah, je vois. L'emballage est tellement beau qu'on ne vérifie plus le contenu.
Exactement. Si le stagiaire virtuel accomplit la tâche de A à Z, l'humain devient intellectuellement paresseux. Il valide sans lire.
C'est super dangereux, en fait.
C'est pour ça qu'il y a une urgence absolue à intégrer des garde-fous mécaniques, des espèces de boutons d'arrêt d'urgence dès la conception de l'agent. Sinon, on dilue complètement la responsabilité dans une boîte noire.
Ouais. Et d'ailleurs, si ce fameux stagiaire virtuel est capable de gérer les dossiers administratifs, de faire la synthèse et tout ça en totale autonomie,
Bah la question qui fâche s'en pose, hein. Que se passe-t-il pour l'être humain qui s'asseyait à ce bureau hier ?
Ah, ben les répercussions sur le marché du travail sont massives. Et le truc, c'est qu'elles sont déjà là.
Les chiffres de la COFAS dans le magazine sont fous.
Oui, ils évaluent à 5 millions le nombre d'emplois potentiellement exposés, rien qu'en France.
5 millions ?
Et le FMI estime que 40% des emplois mondiaux sont touchés, et ça grimpe même à 60% dans les économies avancées.
C'est dingue !
Et les entreprises n'attendent pas, hein, tu sais. Block a supprimé 4000 postes. C'est un quart de leurs effectifs. WiseTech Global, 2000 postes. Dow, 4500 postes pour, je cite, « simplifier et automatiser ses processus ».
Et au-delà de ces vagues de licenciements secs qui font les gros titres, il y a un phénomène encore plus insidieux, le gel des embauches.
Ah oui, complètement.
Bah, des boîtes comme Salesforce ou Klarna, qui annoncent ouvertement qu'elles freinent ou stoppent le recrutement pour le support client, ou même pour l'ingénierie logicielle.
Bah oui, les agents IA absorbent la nouvelle charge de travail, donc pas besoin d'embaucher.
Mais attends, il faut que j'exprime un vrai scepticisme ici.
Vas-y.
On nous a fait le coup à chaque révolution industrielle. Je veux dire, les métiers à tisser devaient détruire le travail, les tracteurs ont remplacé les chevaux, les ordis ont remplacé les machines à écrire. Et à chaque fois, l'économie a fini par créer de nouvelles industries et de nouveaux métiers, non ? En quoi c'est fondamentalement différent aujourd'hui ?
Je comprends tout à fait ton point. Mais la différence, elle réside dans la nature même de la tâche qui est automatisée.
C'est-à-dire ?
La révolution industrielle, elle a remplacé la force physique, le geste mécanique. Cette vague-ci, avec l'IA, elle s'attaque frontalement aux fonctions cognitives.
Au cerveau, quoi.
Voilà. Elle cible la rédaction, l'analyse de données, la conformité bancaire, la gestion de projet. Donc l'IA ne supprime pas forcément un intitulé de poste du jour au lendemain.
Ok.
Elle vide le métier de toutes ces tâches répétitives et normées. Et c'est ça qui crée ce qu'on appelle un déclassement silencieux.
Un déclassement silencieux ?
Oui. Imagine un employé dont la valeur ajoutée, c'était de traiter hyper rapidement des dossiers. Si la machine le fait en 3 secondes, cet employé perd sa valeur sur le marché.
Ah, je vois.
S'il ne monte pas en compétences pour devenir celui qui supervise et qui audite les agents IA, bah son rôle devient obsolète.
Et ça, c'est une onde de choc qui frappe des modèles économiques entiers. Comme l'offshoring au Maroc, par exemple.
Exactement.
Les centres d'appel, la gestion documentaire, le back-office des banques, ce sont des secteurs qui emploient énormément de monde et qui reposent précisément sur ces tâches cognitives normées que l'IA est en train de dévorer.
La vulnérabilité est vraiment structurelle pour ces pays. Si une banque européenne décide du jour au lendemain d'automatiser sa conformité avec une armée d'agents IA...
Ben, le contrat saute.
C'est ça, ouais. Ce sont des milliers d'heures de traitement externalisé qui s'évaporent. Le Maroc se retrouve en première ligne, pas parce qu'il crée la techno, mais parce que son économie est liée aux secteurs qui se font restructurer.
Et face à un tel séisme, on s'attendrait à une réponse mondiale coordonnée, tu vois. Or, l'Europe et les États-Unis n'ont clairement, mais alors clairement pas la même boussole.
Où le fossé est immense. D'un côté, t'as l'Europe avec son AI Act. C'est une approche réglementaire qui est extrêmement lourde, très focalisée sur les risques et la transparence.
Ce qui est bien sur le papier.
Sur le papier, oui. Mais la conséquence directe, c'est que l'innovation en Europe, elle est précédée par une sorte d'angoisse réglementaire. Avant même de tester une idée, les boîtes se demandent comment prouver qu'elles sont dans la légalité.
Et pendant ce temps-là, aux États-Unis, ça accélère à fond. Les géants comme Microsoft, Oracle, Notion, ils intègrent l'IA agentielle au cœur même de leur logiciel d'entreprise.
Oui, dans les ERP, les CRM.
C'est ça. Ces énormes systèmes qui gèrent toute la compta, les stocks, la relation client. Pour les Américains, l'IA décide et agit au cœur du réacteur.
Sans se poser 1000 questions avant.
On en parle beaucoup. Mais les décisions concrètes pour intégrer ces outils dans l'administration, elles tardent.
Oui, c'est beaucoup de théorie.
C'est comme si on passait des années à rédiger minutieusement le code de la route parfait en débattant de la couleur de chaque panneau pendant que d'autres pays commercialisent déjà des voitures volantes.
C'est une super analogie.
À force d'attendre pour ne pas faire d'erreur, le risque, c'est de finir comme de simples consommateurs, non ?
L'histoire du numérique prouve une chose cruelle. L'hésitation coûte toujours beaucoup plus cher que l'erreur qu'on corrige en marchant.
Ouais.
Les pays qui retardent l'adoption technologique, ils perdent l'avantage fondamental lié à l'exploitation des données. Le vrai danger pour les États attentistes, c'est la perte de leur souveraineté numérique. Ils vont finir par confier l'architecture de leurs propres administrations à des boîtes noires importées.
C'est glaçant. Et tu sais, cette fracture entre la fulgurance de la techno et la lenteur des institutions, ça ne se limite pas à l'économie. Ça frappe un domaine beaucoup plus intime. Et là, la création artistique.
Ah, le droit d'auteur, c'est un vrai casse-tête en ce moment.
Les fondations juridiques s'effritent complètement. Le magazine rapporte que le bureau du copyright et la justice américaine viennent de trancher. Une IA ne peut en aucun cas être considérée comme un auteur.
Parce que la loi exige explicitement un esprit humain pour donner une protection juridique. Une machine, ça n'a ni personnalité ni sensibilité reconnue par le droit.
Mais concrètement, avec des outils comme Suno pour la musique ou Midjourney pour les images, n'importe qui peut créer une œuvre bluffante avec un prompt de 3 mots.
Oui, c'est à la portée de tous.
Du coup, si la machine n'est pas l'auteur et que l'utilisateur n'a fait que taper 3 mots, à qui appartient l'œuvre? Elle tombe direct dans le domaine public?
C'est la grande zone grise actuelle. En théorie, oui. Sans intervention humaine significative, ces œuvres générées pourraient ne pas bénéficier du copyright.
Mais en pratique?
En pratique, les plateformes imposent leurs propres contrats privés pour contrôler l'exploitation de ces contenus. Et d'ailleurs, au Maroc, le Bureau marocain du droit d'auteur fait face à la même impasse, vu que leur législation lie aussi la notion d'auteur à une personne physique.
Mais au-delà de l'aspect légal, moi ça me donne le vertige d'un point de vue économique et philosophique.
Je te comprends.
Si je peux générer une symphonie hyper touchante en 5 secondes, la valeur financière de l'art, elle va s'effondrer sous le poids d'une offre infinie, non? L'auteur humain est-il encore indispensable si l'algorithme a compris la formule statistique pour nous donner des frissons?
Cela soulève une question cruciale sur la définition même de l'art.
C'est-à-dire?
Pendant des millénaires, l'art a été le véhicule d'une expérience humaine authentique. La souffrance, la joie, la vision unique d'un individu. Là, l'IA nous propose une alternative radicale, un art issu du pur calcul statistique.
C'est un peu triste, dit comme ça.
Le défi culturel des prochaines décennies, ça va être de maintenir un espace pour l'art né de l'expérience vécue, face à ce tsunami de contenus optimisés algorithmiquement, juste pour capter notre attention.
Ouais, ça fait réfléchir. Mais tu sais, pendant qu'on s'interroge sur le statut d'une chanson générée par IA, il y a une révolution beaucoup plus silencieuse et potentiellement dévastatrice qui se prépare dans les fondations de notre monde numérique.
Tu parles de l'informatique quantique, là ?
Exactement, l'informatique quantique.
Là, on passe d'une simple évolution à une véritable rupture de sécurité. C'est vertigineux.
Explique-nous un peu pour qu'on visualise.
Eh bien, un ordinateur classique, celui que tu as sur ton bureau, il résonne avec des bits. Un bit a une valeur binaire. C'est un 0 ou un 1.
Ok, la base.
Mais un ordinateur quantique, lui, il utilise des qubits. Et grâce aux lois de la physique quantique, un qubit peut être à la fois un 0, un 1 ou une superposition des deux en même temps.
Waouh, ok. Et ça change quoi concrètement?
Ça permet d'effectuer des millions de calculs en parallèle. Une puissance phénoménale.
Ce qui rend nos systèmes de sécurité actuels complètement obsolètes, c'est ça le problème?
Précisément. Le protocole RSA, qui est le cadenas numérique qui sécurise absolument tout aujourd'hui.
Nos transactions bancaires, les mots de passe.
Les communications diplomatiques, tout. Ce protocole repose sur des problèmes mathématiques insolubles pour des machines classiques. Mais l'algorithme de Shor, qui est un modèle théorique, quantique, est capable de briser ce chiffrement presque instantanément dès qu'une machine sera assez puissante.
Et ça nous amène à cette notion terrifiante que les sources mentionnent, le « harvest now, decrypt later », collecter aujourd'hui, déchiffrer plus tard.
Oui, c'est une menace très réelle.
Des acteurs malveillants aspirent en ce moment même des montagnes de données cryptées qu'ils ne peuvent pas lire, mais ils font le pari que dans 5 ou 10 ans, l'ordinateur quantique leur donnera la clé pour tout ouvrir.
C'est exactement ça. Et c'est ce qui explique la course contre la montre des États. La France, par exemple, injecte 500 millions d'euros dans son programme Proxima.
Ah oui, avec des startups comme C12 ou Pascal.
Voilà, pour développer ses propres capacités quantiques et surtout la cryptographie post-quantique. À l'inverse, des pays comme le Maroc semblent pour l'instant hors de cette course.
Ils n'ont pas vraiment d'écosystème de startups sur ce segment.
Non, et ça risque de créer une exposition totale dans les années 2030.
Surtout que cette asymétrie technologique, elle profite déjà à des réseaux qui n'ont pas besoin de voter des lois pour agir. Le crime organisé.
Ah oui, le dark web s'est métamorphosé.
L'affaire Anthony Coronadi dans le magazine, elle est édifiante. C'est l'histoire d'un jeune homme qui achète de banals stéroïdes sur le dark web.
Une petite transaction, quoi.
Une transaction de quelques dizaines de dollars. Mais en tirant le fil, les enquêteurs ont découvert une hydre mondiale. Les colis partaient d'Inde, transitaient par le Royaume-Uni, arrivaient aux États-Unis. Les paiements en bitcoin étaient dilués dans des portefeuilles anonymes.
Et ce qui frappe, c'est la structure de ce réseau. Le crime organisé a muté. Il ne s'appuie plus sur des parrains locaux, mais sur des modules décentralisés.
La logistique morcelée.
C'est ça. Et la justice traditionnelle, qui est territoriale, lente, elle se heurte à des réseaux fluides qui échappent totalement aux frontières.
En y réfléchissant, c'est fou. Le crime moderne fonctionne avec l'architecture exacte d'un réseau d'agents IA.
C'est vrai, l'analogie est frappante.
C'est décentralisé, optimisé pour exécuter une mission, et surtout, il n'y a pas de cerveau central visible qu'on pourrait juste débrancher pour tout arrêter.
C'est l'adoption des outils d'hyper-efficacité par des acteurs malveillants. Mais, et je pense que c'est là qu'on touche au point critique, si l'automatisation redéfinit le travail, brouille l'art, menace nos cryptages et optimise le crime...
Son aboutissement le plus extrême se trouve sur le champ de bataille.
Exactement. Le terrain où l'efficacité prime surtout.
La frontière ultime. Les documents parlent des opérations de la start-up américaine Foundation. Ils ont déployé des robots humanoïdes, les fameux Phantom MK1.
Et la version MK2 est déjà en préparation, l'automatisation militaire. On a vu les drones, la guerre électronique et maintenant les humanoïdes conçus pour porter des armes. Et l'argument de vente, tu as vu sur quoi il repose ?
Épargner des vies humaines ?
Oui, un levier moral très puissant. Remplacer un soldat par une machine.
Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond ? Je veux dire, préserver des vies, c'est louable, évidemment.
Bien sûr.
Mais si on pousse la logique jusqu'au bout, si une puissance militaire peut envoyer des milliers de robots au combat sans risquer de voir revenir des cercueils, le coût politique d'une guerre s'effondre.
C'est indéniable.
Est-ce qu'on ne rend pas le déclenchement d'un conflit dramatiquement plus facile et acceptable pour l'opinion publique ?
Si on relie cela à la vue d'ensemble, c'est la crise d'un défi civilisationnel. Sans le frein psychologique des pertes humaines, le seuil de déclenchement de la violence pourrait baisser dangereusement.
C'est une pente glissante.
Et s'ajoute à cela un problème opérationnel critique. Face au brouillage électronique intense qui coupe les communications avec la base, ces machines vont devoir opérer avec de plus en plus d'autonomie sur le terrain.
Déléguer l'autorisation de tir à un algorithme isolé, c'est terrifiant.
C'est une bascule éthique sans précédent, oui.
Eh ben, c'est une trajectoire qui donne vraiment matière à réflexion. Si l'on rassemble toutes les pièces du puzzle qu'on a explorées aujourd'hui, le constat est clair. L'intelligence artificielle est sortie de son enclos.
Elle est dans le monde réel maintenant.
Elle ne génère plus juste du texte sur un écran, elle agit sur notre réalité. Elle gère des dossiers dans nos bureaux, elle redéfinit ce qu'est un artiste. Elle nous oblige à repenser notre sécurité face à l'ordinateur quantique et elle marche littéralement sur nos champs de bataille.
Une technologie qui passe du statut d'outil de consultation à celui d'acteur de décision.
Ce qui nous amène à une pensée finale, peut-être la plus importante, qu'on va laisser en suspens pour ceux qui nous écoutent. Si des agents algorithmiques finissent par gérer de manière autonome nos entreprises, par concevoir nos médicaments et par faire la guerre à notre place,
que restera-t-il de la responsabilité humaine ?
Exactement. Si la machine prend l'initiative, définit le problème et exécute la tâche de A à Z, l'humain de demain sera-t-il encore le maître du monde qui l'a bâti ou deviendra-t-il un simple spectateur de l'efficacité de ses propres créations ?
C'est une question vertigineuse sur le sens même de notre action.
Une vraie question pour le 21e siècle. Merci de nous avoir accompagnés dans ce décryptage.